franceinter.fr.
L'Europe qui va enfin profiter des premiers services de Galileo. Et nous allons tout de suite partir à Kourou en direct pour suivre le décollage, justement, de la fusée Ariane.
6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain.
Vous entendez en direct même ce qui se passe.
C'est la première fois dans la tête au carré.
Voilà, nous sommes en direct de Kourou. Et ça y est, elle est bien partie. La fusée Ariane 5 avec à son bord 4 satellites Galileo. Et Jean-Yves Le Gall qui est avec nous à l'autre bout du monde, du côté de Baïkonour, le président du CNES, coordinateur interministériel du programme Galileo. Bonjour à vous, Jean-Yves Le Gall.
Bonjour.
Vous êtes rassuré, la fusée a bien décollé, on l'entend là derrière vous.
Oui, j'ai la vidéotransmission à Baïkonour depuis Kourou, donc ça marche bien par satellite et je viens de l'avoir décollé.
Voilà, sacrée journée pour vous quand même, hein.
Oui, là, c'est la journée très importante, puisque ce matin, on a un décollage d'Ariane avec 4 Galileo, une mission fondamentale pour la politique spatiale européenne, et ce soir, à Baïkonour, donc Thomas Pesquet part sur la station pour 6 mois.
Oui. Alors, la fusée vient de partir, on l'a sous les yeux, on la voit encore dans le ciel, à son bord 4 satellites. À quoi ça ressemble aujourd'hui des satellites de géolocalisation tout neufs et européens ?
Les satellites de géolocalisation tout neufs et européens, c'est vraiment l'état de l'art de ce qu'on fait à la matière, et c'est pour ça que Galileo va être plus performant que le GPS, dans la mesure où c'est une nouvelle génération. Donc typiquement, le GPS, c'est 10 mètres de précision, Galileo, ça sera 1 mètre, et puis en plus, avec Galileo, on aura la datation des événements avec quelques milliardièmes de secondes pour savoir exactement ce qui se passe. Donc un projet qui va être très très important, et nous espérons très réussi pour l'Europe.
À partir de quand le grand public va profiter des services de Galileo efficacement ?
Donc de ce GPS européen.
Si tout va bien, avec ces nouveaux 4 satellites en orbite, eh bien, on aura 15 satellites qui fonctionneront en orbite. Et donc, on devrait pouvoir lancer ce qu'on appelle les services initiaux d'ici la fin de l'année. Donc ça veut dire que c'est demain.
À terme, c'est 30 satellites et c'est prévu pour 2018. Pourquoi 30 alors que GPS en a 24, pardon ?
Bon, parce qu'on est sur une orbite un peu différente, on peut commencer avec 26, ce n'est pas très très significatif. Voilà, donc on vient de voir se séparer les étages accélérateurs à poudre du lancement, donc on est à peu près à 2 minutes dans le lancement, tout va bien. Et donc Galileo va arriver, si tout va bien, dans quelques semaines, et avec, je le répète, une précision bien meilleure que le GPS.
C'est vraiment le but, Jean-Yves Le Gall, de s'affranchir justement du GPS américain ?
Oui, absolument, parce que le GPS, c'est quand même un système militaire, et aujourd'hui, de plus en plus d'utilisateurs civils ont leur activité qui dépend du GPS. On considère qu'actuellement, il y a à peu près 10% du PIB qui est impacté par les systèmes de positionnement par satellite. En 2030, il y aura 30% du PIB, c'est considérable, et donc on veut avoir un système indépendant, et c'est ce que nous sommes en train de réussir de faire avec Galileo.
Est-ce que concrètement, pour les utilisateurs du GPS dans la vie de tous les jours, ça va changer quelque chose ?
Oui, parce que lorsque nous aurons accès au système Galileo, eh bien, je l'ai dit, on aura une précision bien meilleure, on aura la datation, ce qui va permettre d'utiliser Galileo pour des actes parfois peut-être contractuels, pour les assurances, et puis ça permettra, par exemple, la circulation ferroviaire à terme qui pourra se passer de système de signalisation, parce que ça sera fait par Galileo. Voilà, en vous parlant, là je vois que la coiffe s'est séparée, donc maintenant les 4 satellites ne sont pas à l'air libre parce qu'on est à l'altitude où il n'y a plus d'air, mais ils sont à l'espace libre, disons, et là la mission se poursuit parfaitement.
Voilà, et description du président du CNES lui-même sur
les
le
images,
décollage.
On n'a même pas besoin de le faire.
D'Ariane 5.
Ça veut dire que maintenant plus aucun risque n'est à craindre pour ces 4 satellites ?
Non, il n'est pas un long fleuve tranquille. Donc là, on va terminer dans peu de temps. On va avoir le premier étage qui va terminer sa mission. On sera à 10 minutes après le décollage. Ensuite, on va avoir l'étage supérieur qui va brûler pendant quelques minutes. Puis après, on a ce qu'on appelle une phase balistique très très longue, puisqu'on monte à 23 000 km d'altitude. Et de façon précise, 3h35 après le décollage qui était à 06, donc dans 3h35, on va séparer les deux premiers satellites, et 20 minutes plus tard, tard, 3h55 après, on va séparer les deux derniers. Et là, l'autre centre technique du CNES, donc on a un centre à Kourou, le centre de Toulouse, va commencer à travailler puisqu'il va faire l'acquisition de ces satellites, ce qui n'est pas facile, acquérir en même temps 4 satellites et les mettre à poste. Et donc, dans 4 heures, on saura si la mission lanceur s'est bien passée. Et puis dans quelques jours, on saura si les satellites vont bien. Mais là, tout semble bien se passer pour l'instant.
Pourquoi est-ce que Galileo arrive si longtemps après le GPS ?
Parce que le GPS, c'est un système de l'US Navy. La mission de base du GPS, c'était de permettre aux sous-marins nucléaires américains de recaler leur position de temps en temps. Puis on s'est rendu compte de tous les bénéfices que cela pouvait apporter. Et puis ensuite, eh bien, l'Europe s'est dit, ça serait bien d'avoir notre système. Alors c'est vrai qu'il a fallu du temps, mais c'est vrai aussi qu'à partir du moment où la décision a été prise, eh bien, les agences spatiales, l'industrie, donc l'ESA, le CNES, les industriels qui ont construit les satellites, les choses ne vont pas si mal. Et je peux vous dire que à partir du moment où le top a été donné, eh bien nous allons plus vite que le GPS. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, on démarre plus tard, mais on court plus vite. C'est-à-dire que on va finir par arriver à le rattraper.
Jean-Yves Le Gall, je rappelle que vous êtes à Baïkonour en ce moment, même si on décrit donc le décollage d'Ariane depuis la Guyane à Kourou. Évidemment, l'événement aussi, c'est le départ de Thomas Pesquet qui s'envole aujourd'hui dans l'espace pour un voyage en orbite de 6 mois. Moi, à bord de Soyouz, vous avez assisté au décollage à 21h ce soir. Vous avez pu le croiser, Thomas Pesquet, aujourd'hui ou pas ?
Pour tout vous dire, j'ai rendez-vous avec lui dans 15 minutes, puisqu'il s'est réveillé il y a un petit moment. Donc là, il commence à se mettre en condition pour le lancement. Donc on va le voir et puis après, on va l'accompagner jusqu'à la capsule Soyouz. Donc une fin de journée riche en émotions à Baïkonour.
Quel est le protocole 6 heures avant le départ pour les trois astronautes là dans les heures qui viennent ?
Dans les heures qui viennent, il faut d'abord qu'ils se préparent parce que revêtir le scaphandre, ce n'est pas si facile. Ensuite, il y a des derniers check-up, de dernières vérifications et puis ensuite, les astronautes vont vers le lanceur quelques dizaines de minutes avant le lancement. Ils s'installent, s'installer dans la capsule n'est pas si facile et puis ensuite, on lance le compte à rebours et si tout va bien, on décolle à 2h20 heure de Baïkonour, c'est-à-dire à 21h20 heure de Paris.
Ouais, vous pourrez serrer la main.
Si tout va bien, la mission Ariane aura été terminée. Donc vous voyez, c'est aujourd'hui une journée où le CNES est vraiment sur tous les fronts.
Ouais, vous pourrez serrer la main de Thomas Pesquet, Jean-Yves Le Gall, ou pas, ou il est vraiment isolé jusqu'à sa montée dans la fusée ?
Non, en principe, il est isolé pour des raisons médicales, en quarantaine médicale, on peut le comprendre, parce qu'il y a 3 cosmonautes dans la station, les 3 qui partent ont intérêt, mais on se verra quand même d'assez près, même si on ne se congratule pas, et puis là, je vois qu'à Kourou, tout va bien, le vol est nominal, comme on dit.
Eh bien, merci pour vos commentaires, depuis Baïkonour, sur la Guyane, Jean-Yves Le Gall, et pour cette journée, effectivement, très chargée en matière d'espace. Merci beaucoup à vous, et puis Axel, on se retrouve demain.
Petite précision, on peut suivre le décollage de ce soir sur le site et le YouTube de la Cité de l'Espace à partir de 17h.
Pour vivre évidemment le départ de Thomas Pesquet. Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une cause nouvelle des naissances prématurées identifiée par des chercheurs américains. 60 000 enfants naissent avant terme chaque année en France et les raisons de ces naissances anticipées ne sont que très rarement identifiées. Et bien, une équipe de chercheurs de l'Ohio pense avoir mis le doigt sur une explication en observant directement le sac amniotique de 100 femmes ayant accouché prématurément. Les chercheurs ont remarqué que des dépôts de calcium anormaux avaient rendu les membranes moins élastiques et plus fragiles. Une accumulation de calcium due à un manque de la protéine fetuin A, c'est son nom, qui inhibe cette calcification. Une découverte qui devrait permettre de mieux identifier les grossesses à risque dans un futur proche. L'objet le plus rond jamais observé dans la nature est une étoile. Vous ne le saviez peut-être pas, mais toutes les étoiles ne sont pas des sphères parfaites. Plus un astre tourne vite sur lui-même, plus la force centrifuge va l'aplatir au niveau de l'équateur. Mais Kepler 111-45-123, c'est son nom, situé à 5000 années-lumière de nous, tourne si lentement sur elle-même que la différence de grosseur entre ses pôles et son équateur est seulement de 3 km pour un astre de 3 millions de kilomètres de large. Cette sphère chaude est parfaite à 99,99% et donc l'objet naturel le plus rond découvert pour l'instant. Et puis pour finir, comment respirer sous le sable sans remplir ses poumons de grains microscopiques ? Voici le défi du poisson des sables. C'est un petit lézard, en réalité, vivant dans le Sahara et qui ne sort du sable que pour faire ses besoins et se reproduire. Et bien jusqu'à aujourd'hui, les biologistes ne parvenaient pas à comprendre comprendre comment les grains de sable ne pénétraient pas dans ses poumons. La réponse tient dans sa méthode de respiration détaillée aujourd'hui dans une publication. Ce lézard inspire en effet très doucement pour limiter l'aspiration de grains, déglutit pour avaler les rares particules gênantes présentes dans sa trachée et expire d'un coup sec pour expulser le reste. Une méthode très efficace pour préserver ses poumons, mais qui a pour inconvénient de remplir son estomac de sable, lui faisant donc un ventre bien rond.